السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، la fois dernière, on a fait un rappel des événements les plus importants dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a déjà étudié depuis un certain nombre d'années, depuis la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la révélation, jusqu'à même l'émigration, al-hijra. Et on s'est arrêté dans le rappel des événements importants à l'émigration. Et donc on va rappeler, parce que nous, on est arrivé où dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On est arrivé à la bataille de Uhud. Début de la bataille de Uhud. Et comme on reprend là cette année, yani, on fait un rappel des événements les plus importants. Et donc, la deuxième partie de ce rappel va concerner la partie entre la révélation, entre l'émigration à Afwan, l'Hijra, l'émigration, donc l'arrivée du professeur Samuel à Médine, et la bataille de Uhud, qu'on va reprendre et recommencer à voir en détail. Il y a une série d'événements qui vont s'enchaîner et qui vont conduire à la bataille de Badr avant de conduire à la bataille de Uhud. Parce que la première grande bataille, c'est la bataille de Badr. Et la bataille de Uhud, c'est justement la revanche que vont prendre les Quraysh contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi à arriver sain et sauf dans la ville de Médine. Au moment où il arrive à la ville de Médine, une grande partie de la ville, plus de la moitié, est convertie à l'islam. Et donc ils accueillent, ils ont prêté serment d'allégeance au professeur Hassan, et ils accueillent le professeur Hassan et tous les musulmans qui font immigration chez eux et qui trouvent refuge chez eux. Et ainsi, le professeur Hassan va construire la première mosquée à Médine. C'est la mosquée prophétique, la mosquée du professeur sallam. Le professeur sallam va être accueilli dans un premier temps chez Abu Ayyub al-Ansari, le compagnon radiallahu anhu, Abu Ayyub al-Ansari. Le temps de construire la mosquée, le professeur sallam habitera, on lui construira une pièce yani, qu'il donne sur la mosquée. Fa'ala kulli hal, les premières décisions que le professeur sallam ou les premières choses que le professeur sallam met en place, c'est tout d'abord comment dire, la construction de la mosquée, la fraternisation. Chaque compagnon de Médine, chaque Ansari, les compagnons de Médine, on les appelle les Ansar, prend en charge, prend en parrainage un Muhajir, un compagnon de la Mecque. Et la troisième chose que le professeur sallam met en place, c'est ce que nous on a appelé Dusturul Medina, la constitution de Médine, qui régit la façon de vivre entre toutes les personnes, musulmans avec musulmans, et les musulmans avec les non-musulmans, comment ils doivent vivre pour faire en sorte qu'il y ait la paix, la sérénité et la vie en sécurité, que chacun ressente et confiance en l'autre et ressente que l'autre est là pour le protéger. Et on avait dit qu'il y avait plus de 40 articles, 40 recommandations, dans cette, ce qu'on avait appelé, nous, la constitution de Médine. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se mariera aussi à cette époque-là avec Aïcha, radiyallahu anha. Et évidemment, on avait expliqué déjà plusieurs reprises que il faut se quand on étudie la vie du professeur Sallam en détail, qu'on médite sur chaque événement, ce qui se passe là, c'est un désastre pour les notables de la Mecque. Parce que les notables de la Mecque, ils sont beaucoup dans le « quand dira-t-on ». Ils gèrent les lieux saints, ils sont la tribu arabe la plus importante parmi toutes les tribus arabes, puisqu'ils ont la gérance des lieux saints. Et donc ce qu'ils appellent ce problème, le problème de l'islam, au début, ils l'ont contenu dans la Mecque, et quand ils ont voulu l'étouffer, à force de persécution, etc., et même ils avaient pris la décision finale d'exécuter le professeur Salim, de l'éliminer physiquement, et finalement le professeur Salim a pu, le jour où ils ont pris cette décision, il a fait la hijra, l'émigration, pour trouver refuge à Médine. Alors qu'avant lui, la plupart des compagnons ont déjà fait l'émigration soit vers le Habasha, l'Abyssinie, soit vers Médine. Donc pour les notables de la Mecque, c'est une catastrophe. Ils pourraient se dire, au final, ils sont partis. Parce qu'ils ont tout laissé derrière eux, les musulmans. Ils ont laissé leur famille, pour certains. Quand leur famille n'était pas musulmane, ils ont laissé leur famille. Et quelquefois, il y en a qui cachaient leur islam et qui n'avaient pas les moyens de partir. Ils sont restés. Et il y en a qui ne cachaient pas leur islam et qui n'ont pas réussi à partir parce qu'ils étaient surveillés, retenus. Ils étaient sous pression. Et donc, ils n'ont pas trouvé le moyen de partir. Donc, il y a des gens qui partent et qui laissent derrière eux leur famille. Il y en a qui partent et qui ont laissé derrière eux toutes les richesses, leur demeure, leur terre, leurs biens. Ils ont tout laissé derrière eux. Et ils doivent tout reprendre, tout recommencer à zéro. Évidemment, les notables de la Mecque vont profiter de la situation pour confisquer tout ce que les musulmans ont laissé derrière eux et le revendre. Mais malgré tout, pour les Mekouas pourraient se dire, ils sont partis, ils nous ont laissés tranquilles, qu'ils aillent faire leur religion ailleurs. Mais non. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, il y a d'abord, ils regardent ça, la réputation de leur tribu, et ils ont peur que cette religion, parce que c'est pas juste une crainte, ils voient bien qu'en 13 années depuis la révélation, combien de gens se sont convertis à l'islam. Ils voient que c'est quelque chose qui se propage, qui séduit. Parce qu'entre eux qui appellent à la rigidité des lois ancestrales de leurs ancêtres, où un esclave doit être un objet, une femme n'a aucun droit, une épouse n'a aucun droit, etc., etc. Évidemment, le prophète Hassan, lorsqu'il appelle à ce qu'on ne maltraite pas les esclaves et qu'il recommande qu'on les libère, ça séduit déjà les esclaves. Le prophète Hassan, quand il dit qu'on ne doit pas être mauvais envers son épouse, et d'une mauvaise attitude, d'un mauvais comportement, et que c'est une amana qu'Allah nous a donnée et sur laquelle on devra rendre des comptes, évidemment, ça séduit les femmes, cette religion. Quand le prophète sallam appelle au respect de la justice et au respect des gens, peu importe qu'ils appartiennent à une tribu importante ou pas, peu importe qu'ils soient arabes ou non, parce qu'il y avait un racisme chez les jahilites qui était très prononcé. L'arabe était supérieur aux autres. C'était comme ça qu'ils voyaient les choses. Et le prophète sallam est venu mettre à mal ça. Mais évidemment, ça séduit tous ceux qui n'appartiennent pas à une tribu importante ou qui ne sont pas d'origine arabe, etc., etc. Et donc, déjà, tout ça, ça fait beaucoup de monde. Et ensuite, parce que là, j'ai parlé que de ceux qui sont marginalisés par les tribus arabes. Mais ensuite, il y a aussi ceux qui appartiennent à des tribus importantes, aux familles des notables, etc., mais qui utilisent leur raison et qui sont sincères et donc qui adhèrent aussi à cette religion, en particulier les jeunes. Et donc tout ça, ça fait beaucoup de monde, et ils voient comment les choses se sont diffusées, donc ils se disent, tant que c'était chez nous, et que c'était contenu, ça allait, mais maintenant si c'est ailleurs, ça veut dire qu'il aura la liberté de le faire propager dans toutes les tribus, et peut-être qu'un jour ou l'autre, ils vont venir nous attaquer. Et donc qu'est-ce qu'ils décident de faire ? Il décide tout d'abord d'envoyer des lettres, ce qu'on avait appelé les lettres secrètes, aux tribus non converties de Médine, pour leur rappeler les alliances qu'ils ont avec eux, et aussi pour un petit peu les menacer s'ils ne reviennent pas sur le serment qu'ils ont fait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque toutes les tribus de Médine ont accepté de se soumettre à l'autorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans, c'est normal, c'est leur prophète, et les non-musulmans, ils le considèrent comme le leader de la ville, et que c'est à lui de gérer et de dire comment doivent vivre tout le monde, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place ce qu'on a appelé la constitution de Médine. Et donc les Quraysh, évidemment, ils s'attendaient à ce qu'au moins les non-musulmans n'acceptent pas cette nouvelle autorité, et pourtant ils l'acceptent, en tout cas de façade, puisque comme on l'avait vu, il y a beaucoup de tribus qui l'acceptent dans un premier temps de façade et qui attendent le bon moment pour ruser contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils envoient des lettres secrètes menaçantes, etc. Et aussi, comme ça ne fait rien en fait, il n'y a pas d'effet, l'islam continue. Il continue à s'agrandir, il continue à convaincre les gens. Ils vont décider d'en venir carrément à interdire l'accès au lieu saint de toute personne qui est connue pour être musulmane. Alors, évidemment, déjà, les musulmans de la Mecque, originaires de la Mecque, qui ont fait l'émigration vers Médine ou vers l'Abyssinie, ils étaient considérés comme des fugitifs, comme des rebelles. Ils avaient déjà interdiction d'accès au lieu saint. Mais là, ils font un nouveau décret où ils élargissent l'interdiction d'accès au lieu saint carrément à tous ceux qui se disent musulmans. C'est-à-dire quelqu'un de Médine, il vit à Médine, il est né à Médine, c'est un Ansari, il ne peut plus aller faire son pèlerinage à la Mecque. Et s'il est à la Mecque s'il passe par la Mecque pour des affaires, il ne peut plus aller faire le tawaf autour de la Kaaba. Et donc là, c'est quelque chose de grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit, il a toujours cherché à ne pas être dans la confrontation armée, à essayer de mesurer les réponses qu'il faisait pour ne pas arriver à la confrontation entre lui et ceux de la Mecque, mais en même temps, il ne peut pas laisser tout faire, donc il réagissait, mais il essayait de le faire de manière mesurée, assez forte pour montrer qu'il était capable de toucher là où ça fait mal, mais pas assez pour ne pas rentrer non plus dans une confrontation dont personne ne sortirait vainqueur en réalité. Et donc le professeur Hassan, la réponse qu'il donne à cette interdiction d'accès au lieu saint, le professeur Hassan va tout d'abord informer qu'il a reçu la révélation que alors que prendre les armes était totalement, strictement interdit en islam, finalement, prendre les armes uniquement pour se défendre lorsqu'on est expulsé de chez soi, lorsqu'on est attaqué, lorsque notre vie est menacée, c'est-à-dire en légitime défense, alors uniquement dans ce cas-là, c'est permis. Et même comme ça, le professeur sallam informe, mais il ne le met pas en application. C'est-à-dire, c'est comme pour dire au Quraysh de la Mecque, si on veut, on peut, même si on ne le fait pas, parce qu'on ne veut pas arriver jusque-là. Ensuite, le professeur sallam, après cette interdiction, l'élargissement de l'interdiction d'accès au lieu saint, il va faire un pacte de non-agression avec la tribu des Bani Juhayna. Et on avait expliqué que la tribu des Bani Juhayna, c'est eux qui règnent sur une grande partie de la route commerciale au sud de Médine et donc au nord de la Mecque. Et c'est une route commerciale qui est utilisée par les Mécois. Et aussi, ils ont des pactes avec les Bani Juhayna, sinon ils ne pourraient pas passer par là. Ils seraient pillés par les Bani Juhayna. Mais justement, ils ont un pacte, ils payent des taxes, etc., pour pouvoir faire passer leur caravane. Et le professeur Hassan, qu'est-ce qu'il fait ? Très stratégique, il fait un pacte avec eux pour montrer que lui aussi, il est en paix avec ces gens-là. Et donc, lui aussi, il peut utiliser ces plaines et cette route commerciale. Et éventuellement, il peut les utiliser aussi pour intercepter des caravanes. Même si le professeur Hassan ne va pas le faire tout de suite. Et lorsque, malgré tout, les Quraysh n'entendront pas raison et continueront de refuser la liberté religieuse pour les autres que les idolâtres, et ils continueront de refuser de laisser tous les musulmans de la Mecque qui veulent émigrer rejoindre le prophète Hassan librement, ils refuseront de les laisser partir, parce que certains sont prisonniers à la Mecque, sont capturés, sont enchaînés, ligotés, etc. D'autres sont persécutés. Le prophète Hassan demande à ce qu'on laisse les gens qui désirent le rejoindre venir, et ça, c'est toujours pas le cas. Et aussi, toujours l'interdiction d'accès au lieu saint. Donc le prophète Hassan, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mener une série d'expéditions. Et des expéditions, comme on va le voir, qui ne vont pas être des véritables guerres. C'est juste des démonstrations de force pour essayer de faire entendre raison aux Quraysh, mais les Quraysh sont tellement orgueilleux que chaque décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne la considèrent que comme quelque chose qui met de l'huile sur le feu. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait rien, eh bien, il considère que c'est bon, il a peur, il est faible, et donc ils mettent encore plus de mesures et plus de pression. La première expédition que le prophète Hassan va envoyer, donc lui il n'y participe pas, mais il envoie Hamza ibn Abd al-Muttalib à la tête d'une petite armée pour intercepter une caravane des Quraysh. Et ils arrivent face à face. Donc jamais il y a eu ça dans l'islam, c'est la première, c'est l'expédition de Sif al-Bahr, parce qu'elle s'est déroulée dans un endroit qu'on nomme Sif al-Bahr. Et c'est la première fois que des musulmans armés se retrouvent face à face aux idolâtres armés. Et comme on a dit, ils se trouvent où ? Ils se retrouvent sur la route commerciale. Qui appartient à qui cet endroit-là ? À la tribu des Bani Juhayna. Et eux, ils ont un pacte avec qui ? Ils ont un pacte à la fois avec les musulmans de Médine, le professeur Salam, et à la fois avec les Quraysh de la Mecque. Et ici, un chef des tribus bédouines de Bani Juhayna, qui s'appelle Majdi ibn Amr al-Juhani, va venir et s'interposer entre eux. Et va dire, nous avons un pacte avec vous et avec vous. S'il vous plaît, que chacun retourne chez soi et ne faites pas couler le sang ici. Et Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, il va accepter de faire demi-tour. Parce que l'objectif, ce n'est pas de faire la guerre. L'objectif, c'est juste, laissez-nous tranquilles. Vivez votre religion et laissez-nous vivre la nôtre. Comme le verset qui leur a été déjà révélé à cette époque-là, qui dit quoi ? Lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. C'est-à-dire une forme de liberté de croyance et religieuse. Comme le prophète Hassan est en train de mettre en place à Médine. Au moment où le prophète Hassan arrive à Médine, celui qui veut être chrétien, juif, etc., il y a des tribus juives, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est voilà comment on va vivre entre nous pour que chacun y soit juste les uns envers les autres. Et chacun a le devoir de secours envers l'autre. La deuxième expédition, c'est l'expédition de Al-Kharrar. Le prophète Hassan va envoyer une petite armée, à la tête de laquelle il y aura son cousin éloigné, Ubayda ibn al-Harith ibn al-Muttalib. Et c'est la première fois où il y aura des tirs de flèches. Mais de loin, ils ne vont toucher personne. Encore une fois, c'est juste une démonstration de force. C'est important de rappeler tout ça. Même si on l'a vu, c'est important. Maintenant, nous, quand on va arriver à la bataille de Uhud, à partir de ce moment-là, à partir de la bataille de Bar et de Uhud, on va parler pendant longtemps d'une période qui est une période de guerre, de confrontation. Mais il ne faut jamais oublier de se remettre dans le contexte. C'est-à-dire que le prince Hassan n'a jamais voulu ça. Mais il y a été conduit. Il a tout fait pour éviter ça. Il a tout construit pour faire en sorte que chacun puisse avoir sa croyance, sa liberté de religion, mais les notables de la Mecque refusaient catégoriquement de laisser ça, parce que pour eux, c'était comme laisser une part de leur autorité. La religion de leurs ancêtres, comme ils disaient, c'est elle qui doit avoir le dessus sur toutes les autres. Et donc, ils refusaient catégoriquement qu'une autre religion apparaisse. On pourrait dire, ouais, mais alors, il y avait des tribus juives, ça ne leur posait pas problème. Oui, mais ça restait minoritaire, et il n'y avait pas de da'wa. C'est-à-dire que les juifs n'appelaient pas les autres à se convertir au judaïsme. Ce qui pose problème avec les musulmans, pour les Quraysh, c'est que les musulmans demandent, enfin, exposent leurs convictions et demandent à ce qu'il y ait la liberté à chacun de choisir. Non. Ala kulli hal, donc la bataille de l'expédition de Kharrar, c'est les tirs de flèches. Le premier à avoir tiré des flèches en islam, on dit que c'est dans cette bataille, c'est le compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas. Ce qui va conduire à la troisième expédition, c'est l'expédition de Al-Kharrar. Donc il y avait celle d'avant, c'est Rabir, il y a eu des tirs de flèches, et la troisième, c'est Al-Kharrar. Et le professeur Sam Mwaki, il envoie Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, justement. Ensuite, il y a l'expédition de Al-Abwa, qui est aussi surnommée l'expédition de Waddam. Et c'est la première expédition où le professeur Sam lui-même sort. La première expédition. D'habitude, il avait envoyé des compagnons. La première fois où le professeur Sam va lui-même sortir à la tête d'une armée pour une expédition, c'est l'expédition de Al-Abwa, aussi surnommée l'expédition de Waddam. Le professeur Sam sort pour intercepter une caravane, mais il rate cette caravane. Et de nombreuses fois, ça va arriver. Le professeur Sam sort pour intercepter une caravane. Ses éclaireurs lui disaient une caravane qui passe par là. Le professeur Sam sort. Et de nombreuses fois, ça arrive qu'il la rate. Et comme on avait déjà expliqué, on n'a pas de texte ou d'historien qui dit clairement ça. Mais quand on médite ça, une expédition, il sort pour intercepter la caravane, il la rate. Il sort à celle d'après, il la rate. Au bout d'un moment, on se demande s'il ne s'est pas fait exprès. C'est-à-dire, encore une fois, il ne veut pas la confrontation. Mais il montre que s'il voulait, il pouvait. Alors, il est sorti avec toute une armée, etc. Bon, il l'a raté, mais s'il l'avait intercepté, qu'est-ce que ça aurait fait? Il aurait pu la bloquer. Il aurait pu prendre ce que cette caravane contient comme richesse. Il aurait pu faire la guerre, mais ce n'est pas arrivé. Ala kulli hal. Donc le professeur Sam sort lui-même pendant l'expédition de l'Abwa, qui est aussi surnommé Waddan, mais il n'intercepte pas la caravane. Ensuite, l'expédition d'après, c'est celle de Bouat, l'expédition qu'on surnomme Sariyatu Bouat, l'expédition de Bouat. Et ici aussi, le professeur Sam va sortir pour l'expédition de Bouat. Non. Ce que j'ai oublié dans celle d'avant, Afwan, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans celle de Abu et de Waddan, il n'intercepte pas la caravane, mais il profite de sa sortie pour conclure un pacte avec les Bani Moudlij, qui vivent aussi sur une partie de la route commerciale. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en termes d'alliance, il gagne du terrain. Les Bani Moudlij sont encore un peu plus au sud que les Bani Juhayna. Et donc, le prophète Hassan assoit une certaine influence. Et pour les Quraysh, c'est vu une certaine menace en plus sur leur route commerciale, sur la route commerciale qu'ils utilisent. Donc ensuite, on a dit qu'il y a eu l'expédition de Bouat dans laquelle le prophète Hassan sort. Et ici aussi, il rate la caravane, il ne l'intercepte pas. Ensuite, après celle de Bouat, il y a l'expédition de Al-Ushayra. L'expédition de l'Ushayra, c'est pour intercepter une caravane et pas n'importe laquelle. C'est une caravane, celle à la tête de laquelle il y a Abu Sufyan. Il est en train d'aller où ? Vers le Sham, vers la Syrie, pour vendre des richesses, se faire des bénéfices, acheter des marchandises qui seront revendues à la Mecque. Et en fait, pourquoi elle est intéressante, cette expédition ? Alors, elle est intéressante parce que c'est justement la caravane qui va être la cause de la grande bataille de Badr à son retour du Sham. Puisqu'ici, pour l'expédition de l'Ushayra, le professeur Salim ne l'intercepte pas, il la rate. Il rate la caravane. Donc il ne l'intercepte pas, encore une fois, vous voyez. Et il en profite pour faire... tout à l'heure, j'ai dit qu'il a fait un pacte d'alliance avec les Bani Moudlij, c'est une erreur. C'est avec les Bani Damra. Et c'est ici, à l'Ushayra, qui fait un pacte de non-agression avec les Bani Moudlij. Donc, en tout, pour l'instant, le professeur Sam a fait trois pactes. Les Bani Juhayna, les Bani Damra et les Bani Moudlij. Ensuite, il va y avoir l'expédition de Safwan, ou qui est aussi surnommé Badr al-Oula, Sariyatu Badr al-Oula, l'expédition de la première Badr. Pourquoi on la nomme comme ça ? Parce qu'il y a la grande bataille de Badr, c'est la deuxième. Et la petite bataille de Badr, c'est celle-là. C'est celle de Safwan, qu'on appelle Badr al-Ula, la première Badr. La première bataille de Badr. Et ici aussi, il n'y aura pas de combat. Il n'y aura pas de combat. Non. Mais ce qui est intéressant, c'est de rappeler pourquoi. Et c'est le professeur Hassan qui sort dans cette bataille, il va jusqu'à Badr. Pourquoi ? Parce que les Quraysh, au lieu de se dire, bon, c'est dangereux, on ne veut pas de problème, on veut que nos caravanes elles puissent passer sereinement et revenir sereinement, puisqu'il y a des pactes qui ont été conclus, et que le professeur Hassan montre qu'il pourrait s'il voulait, au lieu d'avoir cet effet sur les Quraysh, qu'est-ce qui se passe ? Les Quraysh décident de s'en prendre directement à la ville de Médine. Ils envoient un homme à la tête de quelques hommes qui s'appelle Kurz ibn Jabir al-Fihri et qui vient. Il va être accueilli par des tribus qui vivent à l'extérieur de Médine et il va essayer d'attaquer Médine de nuit parce qu'il a juste quelques hommes, donc il veut juste attaquer par surprise, tuer quelques personnes, brûler quelques demeures et prendre la fuite. Voler ce qu'il peut, piller ce qu'il peut et prendre la fuite. Sauf que cet homme, lorsqu'il arrive, on lui explique que la ville de Médine, puisque évidemment les musulmans se méfient des idolâtres, est extrêmement bien surveillée, que ce soit de jour ou de nuit. Il y a des gens qui font la ronde dans chaque quartier, etc. Les entrées de la ville de Médine sont surveillées. Par contre, il lui donne un conseil, ils lui disent les enclos à l'extérieur de Médine où on met les chameaux, le bétail, etc., où il y a les jardins de palmiers qui donnent beaucoup de dattes dans les récoltes chaque année pour Médine. Ils leur disent, par contre, là, ils concentrent leur protection dans la ville, mais à l'extérieur, là où ils ont tous leurs biens, leur bétail, etc., il y a des gens qui surveillent, mais il n'y en a pas beaucoup. Vous pourrez éventuellement avoir le dessus. Et Kurz ibn Jabir al-Fihri, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'en prendre aux enclos, il va prendre ce qu'il peut, et ravager le reste, faire brûler les palmiers et saccager ce qu'il peut, et évidemment il prend la fuite. Et donc le professeur Hassem, lorsqu'on se réveille au matin et qu'on vient raconter au professeur Hassem ce qui s'est passé, le professeur Hassem monte tout de suite une armée pour essayer de les rattraper. Mais il n'arrivera pas à les rattraper, et il sera à leur poursuite, et il s'arrêtera où ? Il s'arrêtera à Badr. C'est pour ça qu'on appelle cette expédition la première Badr, parce que c'est la première fois que le professeur Hassan va aller jusqu'à Badr, mais la caravane, ou plutôt Kurz ibn Jabir al-Fihri, n'a pas été interceptée, n'a pas été rattrapée. Dernière expédition avant Badr, c'est l'expédition de Nakhla. Qu'est-ce qui s'est passé à Nakhla ? Nakhla, c'est au sud de la Mecque. Et là, comme les Quraysh, ils ont franchi une ligne rouge. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont carrément attaqués à la ville de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit montrer qu'il ne peut pas laisser passer ça. Et donc il doit lui aussi aller faire quelque chose en plus. Mais en même temps, il ne veut pas se confronter, comme on l'a dit, de manière sanglante. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie un groupe d'une douzaine d'hommes, il y a juste 12 hommes, pour faire les éclaireurs au sud de la Mecque, sur la route commerciale du sud de la Mecque, c'est-à-dire qui part de la Mecque vers le Yémen. Ici, le professeur Hassan, de toute façon, il ne peut pas attaquer, parce que s'il attaque, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben après, il faut rentrer. Et pour rentrer, il faut passer par la Mecque ou contourner la Mecque. Et donc, les gens de la Mecque, quand ils vont savoir que leur caravane elle a été attaquée au sud, ça ne laissera pas beaucoup de temps à l'armée musulmane de prendre la fuite et de rentrer vers Médine, puisque la Mecque, elle est au-dessus d'eux. Ce n'est pas comme ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Ils mènent des expéditions à une centaine, 200 km maximum au sud de Médine, et la Mecque est à 500 km de Médine. Donc le temps qu'ils se réveillent, qu'ils montent une armée et qu'ils viennent sur les lieux, ils ont largement eu le temps de rentrer à Médine. Sauf que là, comme c'est au sud de la Mecque, ce n'est pas la même chose. Donc le professeur Hassan ne les envoie pas pour une attaque ou pour intercepter une caravane. Il les envoie comme éclaireurs et pour voir ce qui s'y passe. Et probablement, le professeur Hassan a utilisé ces informations pour le dire, pour informer. Voilà ce qui s'est passé, voilà, pour montrer qu'il a envoyé des hommes jusque-là. Donc il ne leur donne pas l'ordre d'attaquer. Il leur dit, vous allez sur cette route, vous surveillez et vous dites, vous me ramenez les informations pour voir ce qui s'y passe. Soit le professeur Hassan voulait utiliser ces informations pour préparer des expéditions ultra protégées vers le sud de la Mecque, ou soit pour faire dire à toutes les tribus, on est capable d'aller au sud de la Mecque si on veut. Sauf que ses compagnons, en fait, quand ils vont venir faire les éclaireurs, ils vont voir une caravane qui revient du Yémen et qui est remplie de raisins secs du Yémen, qui va être revendue à la Mecque. Et cette caravane, bah, comme les idolâtres se sentent en sécurité pour cette route commerciale, pour eux, ils sont à 1000 lieues d'imaginer que les musulmans osent s'en prendre aux caravanes au sud de la Mecque, puisque ce n'est pas sécurisé pour eux pour prendre la fuite. Eh bien, comme pour eux, c'est une grande occasion d'intercepter cette caravane. Sauf que le professeur Hassan ne leur a pas demandé ça. Donc, ils ont pris eux-mêmes la décision, ils se sont concertés, et ils ont pris la décision d'intercepter cette caravane. Et la problématique de l'interception de cette caravane, il y a deux problématiques. La première, c'est qu'ils ont eu à se décider tout seuls. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une caravane. Donc, ils ont pris la décision tout seuls. Et la deuxième problématique, c'est qu'ils ont enfreint une règle sacrée qui était respectée à la fois par les musulmans et à la fois par les idolâtres. C'est qu'on n'attaque pas dans l'enceinte d'un lieu sacré et on n'attaque pas pendant un mois sacré. On peut se défendre, mais on n'attaque pas. Et en tout cas, sur le fait qu'ils auraient attaqué pendant un mois sacré, il y a divergence, justement. Les Quraysh les ont accusés d'avoir attaqué pendant le mois sacré et des historiens disent non, les musulmans disaient qu'ils avaient attaqué la veille. Mais les Quraysh ont fait courir le bruit que c'était un mois de 29 jours et donc ils avaient attaqué le premier jour de Rajab qui est un mois sacré. Ala kulli hal, on avait parlé de ça, on va pas revenir sur ça. Mais en tous les cas, ils vont attaquer cette caravane, sauf que cette caravane, elle ne va pas se laisser faire. Et donc ils vont refuser de livrer la caravane et donc un combat va avoir lieu et il y aura deux morts côté des idolâtres, deux prisonniers, Afwan, ils vont faire deux prisonniers, les musulmans, ils vont prendre deux prisonniers et ils vont tuer une personne. Et ensuite, ils rentrent à Médine. Évidemment, les Quraysh, pour eux, c'est inadmissible. La grande ligne rouge a été franchie. Le professeur Hassan va se mettre en colère contre ses compagnons. Pour ces deux raisons qu'on a dit. La première, c'est qu'ils ont pris cette décision alors qu'il ne leur a jamais dit d'attaquer. Et la deuxième, c'est qu'ils ont, selon ce qu'on dit, enfreint au moins une des deux règles sacrées, celle qui consiste à ne pas attaquer dans l'enceinte, hein, les lieux sacrés, et celle qui consiste à dire de ne pas attaquer pendant un temps sacré, pendant un mois sacré. Le professeur Hassan se mettra en colère contre eux, et subhanallah, le Coran, il va révéler dans Sourate al-Baqarah des versets qui vont venir dire, certes, attaquer dans les lieux sacrés ou enfreindre les règles sacrées, c'est une chose qui est grave. Mais il y a plus grave que ça, le Coran dit. C'est d'expulser les gens de chez eux sans aucune raison valable. De leur interdire d'adorer Allah Azza wa Jalla uniquement. Donc le Coran dit oui, ils n'auraient pas dû enfreindre cette règle, mais il ne faut pas oublier. Vous ne pouvez pas vous pavaner les notables de la Mecque et dire, regardez, vous avez vu, ils ne sont pas capables de respecter les règles sacrées parce que vous avez fait pire et vous continuez à faire pire. Donc la bataille de Nakhla va conduire à quoi ? Elle va conduire à la bataille de Badr. Les idolâtres refusent de laisser passer ça. Et alors qu'ils réfléchissent à une grande réponse qu'ils vont apporter, qu'est-ce qui arrive à la Mecque ? L'émissaire de Abu Sufyan, Damdam ibn Amr al-Ghifari. Le professeur sallam, ses éclaireurs, ils lui disent que la caravane d'Abu Sufyan qu'il n'a pas pu rattraper pendant l'expédition de l'Ushayra, on lui dit qu'elle est en train de revenir. Et donc le professeur sallam, qu'est-ce qu'il fait ? Il décide de sortir avec une armée de 300 et quelques hommes pour l'intercepter à Badr. Sauf qu'Abu Sufyan, il se méfie puisqu'il sait qu'il a fait passer de justesse sa caravane en allant Il sait qu'il y a d'autres caravanes qui... On a essayé de les intercepter, donc il se méfie, il envoie ses éclaireurs. Et ses éclaireurs lui disent, une armée de 200 hommes viennent à Badr pour t'intercepter là-bas. Donc Abu Sofiane, il prend deux décisions. La première, c'est qu'il contourne Badr. Et la deuxième, c'est qu'il envoie un messager qu'on appelle Damdam ibn Amr al-Ghifari à la Mecque pour les alerter sur ce grave danger qui guette la caravane. Et on avait dit comment Damdam ibn Amr va faire tout son cinéma lorsqu'il va arriver à la Mecque. Hein ? Il va faire, il va arriver debout sur sa monture en se griffant le visage, en arrachant ses vêtements, en criant « Al-Raouth, Al-Raouth », etc. « Au secours, au secours !» Mais qu'est-ce qui se passe ? Et il ne cessera de répéter « Au secours, au secours !»« Al-Latima, la caravane bondée de richesses !» Al-Latima, ça veut dire ça. « Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Et il attendra que le plus de personnes seront réunies autour de lui pour qu'il dise enfin ce qui s'est passé. Il va même balafrer sa monture, et il y aura du sang, etc. Il y avait une image. Pourquoi ? Parce qu'il veut marquer les esprits. Et là, évidemment, c'est l'alerte générale. On décrète la mobilisation générale et sans aucune préparation, sans organisation, les Quraysh partent pour intercepter cette fois l'armée des musulmans. Sauf qu'Abu Soufiane, entre-temps, il leur envoie un messager, il leur dit « C'est bon, j'ai réussi à contourner Badr. » Et ici, il y aura une division, une divergence dans l'armée de Badr. Je ne vais pas revenir sur les détails. Allez, on en a déjà vu tout ça en détail. C'était juste pour rappeler ce qui a conduit à la bataille de Badr. Et la bataille de Badr va se terminer par quoi ? Par une victoire des musulmans. Et après la victoire des musulmans, il y aura un autre événement. C'est que le prophète Hassan se posera, les musulmans vont se poser deux questions. Quel sort réservé aux prisonniers ? Et que faire du butin ? Puisqu'ils ont gagné la bataille de Badr, ils ont des prisonniers, 70 prisonniers, ils font 70 prisonniers, et ils ont du butin. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Ensuite, au retour de la bataille de Badr, il va y avoir toute une période où il y aura des négociations pour la libération contre rançon des prisonniers. Certains, quand on dit contre rançon, ce n'est pas forcément de l'argent. Il y en a, c'est de l'argent. Leur famille paye le prix pour la libération. Il y en a, c'est eux-mêmes, en échange de services, comme l'apprentissage de la lecture à 10 musulmans, ça valait de se faire libérer de sa captivité. Les Mécois, quant à eux, Abu Sofiane est évidemment mal vu, parce qu'on considère qu'il est fautif d'être revenu sans avoir aidé l'armée des idolâtres pour ne pas subir cette défaite cuisante. Et donc, il prend immédiatement plusieurs mesures. La première, c'est qu'il est interdit de se lamenter pour les morts, puisque dans les rites ancestraux, tribaux et arabes, c'est qu'ils faisaient des poèmes et des processions, ils se frappaient le visage tout en se lamentant pour leur mort et en faisant les éloges de leur mort. Donc, il va interdire ça et il va prendre le serment. C'est aussi un rite que faisaient les notables quand ils voulaient montrer que jamais ils ne lâcheront l'affaire. Il fait un serment. Et c'est quoi ce serment ? Il jure par toutes les divinités qu'il adore que plus aucune eau ne le touchera, plus aucune eau de Janaba. L'eau de Janaba, c'est quoi ? C'est lorsqu'on se lave après un rapport intime. Et donc, lui dit, plus je ne me laverai plus de la Janaba jusqu'à ce que je me venge. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire, je ne m'approcherai plus des femmes. Même de Yarni, de ses épouses. Tant que je ne me suis pas vengé. Il va vite regretter, parce que la vengeance, ça se prépare, ça prend du temps. Ala kulli hal, la chose qui va avoir lieu ensuite comme grand événement, c'est une expédition que le professeur Sam va mener chez les Bani Sulaym. Quand le prophète Hassan rentre à Médine, il y a une tribu bédouine, les Bani Sulaym, qui voit d'un mauvais œil. Ils étaient contents d'entendre qu'il y avait la bataille entre les idolâtres et les musulmans. Ils étaient persuadés que les idolâtres allaient gagner, parce qu'ils refusent de faire des pactes d'alliance avec les musulmans. Et donc, quand ils voient que c'est les musulmans qui ont gagné, ça ne leur plaît pas. Et ils disent, les musulmans sont fatigués, ils viennent de faire une bataille, ils ne se doutent pas qu'on va les attaquer, il faut qu'on attaque la ville de Médine par surprise. Si ceux de la Mecque, ils n'ont pas réussi à les battre, c'est nous qui les vaincrons. Sauf que le professeur Hassan, ses éclaireurs l'informent. Donc ils les attaquent avant qu'eux ne l'attaquent. Mais au moment où ils arrivent, juste avant qu'ils arrivent, Ils sont informés par leurs éclaireurs et donc ils prennent la fuite et ils laissent derrière eux tout ce qu'ils ont, les chamelles, etc. Donc ici aussi, encore une fois, le professeur Hassan assoit son autorité. Donc c'est encore quelque chose en plus contre les idolâtres. Les idolâtres n'en peuvent plus de tout ça. Le professeur Hassan, plus on avance, plus on fait des choses contre lui et plus il gagne du terrain, plus il gagne en influence, plus il gagne en autorité. Donc ça, c'est l'expédition des Bani Sulaym. Ensuite, il va y avoir une tentative d'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est fomentée, réfléchie par Safwan ibn Umayya et qui devait être exécutée par Amr ibn Wahb al-Jumahi radiyallahu anhu. Pourquoi radiyallahu anhu? Parce que c'est un compagnon, puisque alors qu'il vient pour assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il repart de là en s'étant converti à l'islam, subhanallah. Et on avait expliqué les détails de ce récit, de cette conversion. Ensuite, il va y avoir l'affaire des Bani Quraïba, la tribu des Bani Quraïba, qui avait un pacte avec le prophète, mais qui eux aussi, depuis la fin de la bataille de Badr, ils montrent leur hostilité, ils montrent qu'ils ne sont pas contents. Et ils vont aller jusqu'à ouvertement rompre le pacte et humilier les musulmans, et en particulier dénuder en public une femme musulmane et se moquer d'elle. Et donc le prophète va assiéger la tribu des Bani Quraïba, sauf qu'il va être supplié, imploré par celui qui devient, par celui qui vient de devenir un hypocrite, puisqu'avant ça il était ouvertement idolâtre, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Après la bataille de Badr, par crainte, il va de façade se convertir à l'islam. Et donc il va implorer, il va dire: nous avons des alliances avec eux, tu ne peux pas assiéger leur ville comme ça, c'est pas possible, etc. Le professeur Sem, il dit: mais en même temps, on ne peut pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Et le professeur Sem, avant ça, il faut revenir au détail. Le professeur Sallam est parti les voir dans leur marché, il les a rassemblés, il leur a dit: vous êtes en train de nous mépriser, de dénigrer, il y a des gens parmi vous qui remettent en cause le pacte que nous avons avec vous, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là? Ils vont répondre au professeur Sallam brutalement et ils vont lui dire officiellement: oui, nous rompons le pacte. Mais le professeur Sallam ne va pas profiter de cette occasion pour les assiéger. Le professeur Sallam, khlas, il retourne, ils ne veulent plus du pacte, tant pis. Encore une fois, le professeur Hassan cherche toujours à tout prix à éviter la confrontation. Sauf qu'ils vont, eux, interpréter l'absence de réaction du professeur Hassan comme une faiblesse. Et donc, ils vont continuer à dénigrer, à humilier, jusqu'à ce qu'arrive l'affaire de cette femme musulmane qui va être dénudée en public et dont on va se moquer, etc. Et ça va déboucher sur la bagarre entre deux hommes, un musulman et un de la tribu des Bani Qaynuqa. Je crois que j'ai dit Quraïda tout à l'heure. Ouais, c'est une erreur. C'est Qaynuqa. La tribu des Bani Quraïda, c'est bien plus tard, on ne l'a pas encore vu. C'est la tribu des Bani Qaynuqa. Et donc, cet homme de la tribu des Bani Qaynuqa, ils vont se bagarrer. Et donc, le musulman va tuer cet homme. Et ensuite, les hommes de la tribu des Bani Qaynuqa vont se rassembler pour tuer ce musulman. Et c'est là que ça va conduire au siège. Et finalement, le professeur Sam acceptera de leur laisser la vie sauve à une condition, c'est qu'ils ne vivent plus à Médine. Puisqu'ils ont rompu le pacte et que ça arrivait jusque-là, ils humilient les gens, ils ont humilié une femme et ils ont tué un musulman. La condition, c'est qu'ils partent de Médine et ils acceptent. Donc ils prennent ce qu'ils peuvent et ils partent. Ils vont s'installer à Khaybar pour certains d'entre eux et les autres du côté du Chien. Après l'expédition des Bani Qaynuqa, il va y avoir l'expédition de Sawiq. Et Sawiq, c'est celle que va mener Abu Sufyan lui-même, puisque comme on l'a dit, il a fait un serment. Et la grande bataille décisive pour se venger, elle n'est pas encore arrivée. Et en même temps, il a fait un serment, donc il est obligé de se retenir. Et donc là, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de mener au moins un petit acte de vengeance pour pouvoir annuler son serment, et il va décider en pleine nuit d'attaquer Médine, et il va s'attaquer lui aussi aux enclos, donc à la périphérie de Médine, là où sont gardés le bétail, etc. Et il va tuer deux gardiens, deux musulmans qui gardent les enclos de nuit, il va les faire exécuter, et il va prendre ce qu'il peut. Et le professeur Hassan va tenter de le rattraper, mais Abu Sufyan va réussir à prendre la fuite jusqu'à la Mecque sans qu'il ne soit rattrapé ni intercepté. Ensuite, après la bataille de l'expédition de Sawiq, il y a le mariage du compagnon Ali radiallahu anhu avec Fatima. Ensuite, il y a l'expédition de Dhi Amar. L'expédition de Dhi Amar, ce sont les tribus de Muharib et des Bani Tha'laba qui font un pacte entre eux pour attaquer les musulmans de Médine. Et le professeur sallam, ses éclaireurs l'en informent. Donc il sort avant qu'ils ne viennent, eux, l'attaquer. Sauf que le chef de ces deux tribus qui a tout organisé, il finira finalement par se convertir à l'islam et se soumettre à l'autorité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, après l'expédition de Dhi Amar, il y a l'affaire de Ka'b ibn al-Ashraf, qui n'a pas cessé depuis la fin de la bataille de Badr de faire du tort aux musulmans, de s'en prendre aux musulmans, de mener une propagande contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à tel point qu'il va aller, au lendemain de la bataille de Badr, il va faire le voyage de Médine jusqu'à la Mecque pour présenter ses condoléances et pour dire nous vous soutenons, etc. Et lui, il vit parmi la tribu juive des Bani Quraïda. Sauf que la tribu juive des Bani Quraïda, quand il voit qu'il va trop loin, ils se désolidariseront de lui. Et c'est un compagnon, Mohammed ibn Maslama, radiallahu anhu, qui va entre guillemets, régler le problème Ka'b ibn al-Ashraf et qui va le tuer. Et après l'affaire de Ka'b ibn al-Ashraf, comme événement dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va y avoir le mariage de Uthman radiallahu anhu avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Umm Kulthum. Puisque je vous rappelle que, même si on ne l'a pas rappelé aujourd'hui, mais on l'avait fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentre de la bataille de Badr, on l'informe. Lui, il vient informer de la grande victoire, et en échange, la ville de Médine, qu'est-ce qu'elle l'informe ? Elle l'informe qu'il vient d'enterrer sa fille, Ruqayya, qui était déjà mariée à Uthman. Et donc Uthman, par la suite, il se marie avec une autre des filles du professeur sallam, c'est Umm Kulthum, radiallahu anha. Et après ce mariage, il y aura comme événement l'expédition de Bahran, où le professeur sallam cherche à intercepter une caravane, mais il n'arrive pas à l'intercepter, il la rate. Et ensuite, il y aura l'expédition de Zayd ibn Haritha, qu'on appelle aussi l'expédition d'Al-Qurada, parce qu'elle va être menée par le compagnon Zayd ibn Haritha. Et cette expédition, elle va toucher quoi ? Elle va intercepter quoi ? Elle va intercepter la campagne commerciale, la caravane commerciale d'été. Il y a une caravane commerciale en été et une caravane commerciale en hiver. Grande caravane commerciale qui est organisée par les Quraysh. Il y a énormément de richesses dedans. Et c'est leur principale source de revenus. C'est le commerce, mais en particulier, c'est deux campagnes commerciales, celle d'hiver et celle d'été. Et celle d'hiver, elle doit être inaugurée par une grande caravane commerciale. Et c'est Safwan ibn Umayya qui doit l'organiser cette année-là. Et il sait qu'il ne peut pas passer par la route habituelle, parce que les musulmans vont l'intercepter. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il décide de la faire passer, de faire un détour et d'essayer de prendre la route qui va vers l'Irak. Donc c'est un grand détour. D'abord Najd et ensuite vers l'Irak pour ensuite revenir vers le Sham, vers la Syrie. Sauf que les éclaireurs du professeur Assam l'en informent. Donc le professeur Assam envoie Zayd ibn Haritha et Zayd ibn Haritha arrive à mettre la main sur cette caravane. Les Quraysh, ils fuient et ils laissent derrière eux. Ils prennent ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas tout prendre. Pour fuir, ils sont obligés de prendre le minimum. Et donc ils fuient, ils retournent à la Mecque et ils laissent derrière eux d'énormes richesses. Et donc là, pour les Quraysh, trop c'est trop. Et ils décident donc d'organiser l'armée pour la grande revanche, Uhud. Et avant ça, on avait vu aussi qu'il y avait le professeur Hassan s'est marié avec Hafsa bint Omar. Donc il en est à ce moment-là trois épouses. Quatre si on compte la première qui est décédée, Khadija bint Khuwaylid. Et sinon, à ce moment-là, il a Saouda bint Zam'a, radiallahu anha, Aisha bint Abi Bakrin As-Siddiq radiyallahu anhuma et Hafsa bint Umar radiyallahu anhuma. Et ensuite il y a la bataille de Uhud, et c'est là où justement on s'est arrêté avant la pause estivale. Donc on reprend à partir de la bataille de Uhud, on reprend la bataille de Uhud en détail à partir de la semaine prochaine inchallah ta'ala. Barakallahu fikoum pour votre attention. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. فيكم بارك الله.